Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1, 2, 1, 2, 3.
C'était naze. Il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission.
Je vous enregistre, dites n'importe quoi pour consentir.
Non, s'il vous plaît.
Merci. Et action.
C'est parti, aujourd'hui débute le podcaston. Alors le podcaston, c'est quoi? C'est plus de 300 podcasts, leurs animateurs et leurs animatrices, qui se mobilisent pendant 7 jours. L'objectif, mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. Cette année, Siècle Digital a décidé de tendre le micro à l'association Systech. Créée il y a 7 ans, Systech se bat pour l'émancipation des femmes réfugiées. Elle les accompagne et les forme pour les aider à accéder à des emplois qualifiés dans la tech et le numérique quand beaucoup restent persuadés que ça leur est impossible. Présente dans plusieurs pays d'Europe, Systech compte soutenir 1% des femmes réfugiées en âge de travailler sur le vieux continent d'ici 2033. Un travail de longue haleine qui permet aussi de répondre à la pénurie de main-d'œuvre et au manque flagrant de diversité dans ces écosystèmes. Grâce à l'association, 71% des femmes accompagnées ont trouvé une première opportunité après un programme. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Joséphine Goub, CEO et fondatrice de Systech, ainsi qu'Inès Massa. À 35 ans, cette femme née en République démocratique du Congo a bénéficié des services de l'association avant de l'intégrer pour apporter elle aussi sa pierre à l'édifice. Et restez bien jusqu'à la fin, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires si vous aussi vous souhaitez participer et aider Systech. Allez, vous écoutez un épisode spécial podcaston de culture numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Joséphine et bonjour Inès.
Bonjour. Bonjour Grégoire.
Alors Joséphine, tu es CEO et fondatrice de Systech et toi Inès, tu es, je ne sais pas si le terme est bon, une ancienne bénéficiaire de l'association.
Une fellow.
Une fellow. Et aujourd'hui, tu es encore liée à l'association, tu en fais encore partie. Déjà, merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode spécial pour le podcaston. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec toi, Joséphine, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Systech? Quel est le but de l'association?
Systech, c'est une association de loi 1901. On est en France, en Grèce et en Italie. Et notre mission, c'est de soutenir l'émancipation des femmes réfugiées, notamment à travers le retour dans un métier du numérique qui soit à la hauteur de leurs compétences.
Ok. Et j'ai dit que tu étais la fondatrice de l'association. Tu en es toujours la CEO. Depuis combien de temps l'association existe?
L'association, elle existe depuis 2017 et notre premier programme, il était en 2018.
Ok. Et toi, Inès, t'en as bénéficié à quel moment de l'association et de ses services?
En 2019.
Ah oui, donc pas longtemps après la création alors.
Tout à fait.
Joséphine, pourquoi avoir créé, ça c'est une question que je me suis tout de suite posée, pourquoi avoir créé une association dans ce secteur-là, sur cette thématique-là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça?
C'est la question qu'on me pose toujours.
Et oui, mais c'est toujours intéressant de connaître l'histoire derrière une telle asso.
Ouais, je sais jamais comment y répondre à chaque fois.
Déjà, comment t'es venue l'idée?
L'idée, elle est simple et elle est, pour moi, elle était évidente. D'abord, j'avais dans mon entourage, dans proches d'amis et puis dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes réfugiées et j'ai constaté les difficultés administratives, les difficultés sur le marché du travail. Et ça me semblait complètement aberrant par rapport aux personnes avec qui je parlais, qui avaient l'air tout à fait en capacité d'aller sur des métiers et qui ne trouvaient pas de job. Mais l'idée de Systech, elle vient d'une observation à la fois sur un plan théorique et à la fois sur un plan pratique. Moi, j'ai monté une asso à Londres qui s'appelait TechFugees à l'époque et qui venait créer des nouvelles technologies avec des personnes réfugiées pour répondre à des besoins d'accès à l'éducation, à la santé et à d'autres choses. Et lors de ces sessions d'innovation avec des personnes réfugiées, j'ai constaté qu'il y avait peu de femmes qui venaient à nos ateliers. Et donc, j'ai commencé à demander aux hommes qui étaient présents pourquoi aussi peu de femmes, alors qu'on sait que 50% des personnes réfugiées sont des femmes. Et ils me disaient, ma mère, ma sœur, ma copine, ma pote, elles travaillent, elles sont caissières, elles sont dans un autre métier un peu plus manuel qui leur permet pas de venir à l'atelier. Et ce que j'ai constaté, c'est que les femmes étaient toujours très prises par des emplois précaires ou à la maison en train de s'occuper des enfants et rarement à faire autre chose. Et donc, j'ai voulu aller à la rencontre de ces femmes parce que je voulais comprendre si c'était une situation qui leur était pénible ou si c'était quelque chose qu'elles avaient voulu. Et j'ai constaté que beaucoup disaient « j'aimerais pouvoir faire autre chose ». J'ai été d'ailleurs avocate, comptable, journaliste. J'ai un diplôme master 5 et j'aimerais faire autre chose, mais je ne vois pas comment je vais y arriver en France ou ailleurs. J'ai commencé à récolter des données statistiques, théoriques, et dans plein de rapports, notamment un rapport du ministère du Travail français, il était dit « les femmes réfugiées en France sont deux fois plus au chômage que les hommes français, et c'est 80% d'entre elles, après 5 ans en France, elles sont toujours au chômage. » Donc c'est un chiffre énorme. Et l'État en est très conscient, puisque dans les dernières années, il y a de plus en plus d'appels d'offres et de volonté du gouvernement français de pouvoir aider à l'accès au marché du travail de ces femmes qu'ils voient rester dans un chômage de long terme. Donc l'idée, elle était bêtement venue de ça, de rencontre avec ces personnes-là. Et pour moi, c'était très important parce que je suis très féministe et aussi parce que c'est vraiment, c'est pour moi une histoire de justice sociale, d'incohérence. Et on a des personnes talentueuses qui sont ici et qui l'ont pas choisi, malheureusement, d'arriver en France parce qu'il s'est passé des choses pas terribles. Mais tant qu'elles sont là, faisons société ensemble, reconstruisons un avenir. Et ça me semblait extrêmement important de le faire. Donc voilà, le projet s'est monté. Et avec ces femmes au départ, on avait des femmes dans le projet qui m'ont aidé à monter ce projet. J'aurais pas pu le faire sans. Et il a marché la première année en 2018. 3/4 des femmes avaient trouvé un emploi dans la tech après le premier programme. Donc, okay. On s'est dit, bon, soit on est très chanceux et c'est fort possible, soit on a trouvé quelque chose. Et donc, on a fait le deuxième programme. Et c'est le programme sur lequel j'ai rencontré Inès. Et ça a remarché, la magie a marché. On s'est dit, soit on est très, 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 très chanceux. Il y a vraiment une méthode derrière.
Mais on dirait que c'est très efficace quand même. La période de pandémie a changé quelque chose là-dedans? Ça a été une période compliquée, on pouvait moins se voir, moins sortir. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les activités et la réussite aussi peut-être de l'association?
C'est une bonne question. Inès, elle a participé à un programme qui se faisait en physique tout le temps. Elle venait chaque semaine dans une boîte.
Pendant la pandémie?
Avant la pandémie.
Avant, ouais.
En 2019, Inès, pour en parler, c'était des sessions chaque semaine dans un endroit de Paris et il y avait 40 personnes qui devaient venir, les mentors, les mentees. Enfin, bref, c'était un truc très... beaucoup de travail pour faire rencontrer les gens. Aujourd'hui, tout est en ligne. Donc, ça a été un grand changement dans la façon dont on s'organise. Et ça nous a permis d'offrir ce programme à vraiment des personnes dans toute la France qui pourraient être très, très éloignées de nous à Paris. Et on n'a pas perdu en qualité, on a gagné en qualité. Maintenant, on essaye aussi de créer des moments physiques de rencontre. Aujourd'hui, c'est tout en digital. Et on était très équipés par rapport à ça, puisque on était déjà sur des formations au métier de la tech, donc il fallait avoir un ordinateur et une box Wi-Fi. Et ça, on a augmenté le budget sur ce niveau-là avec la pandémie.
Ok, oui. Donc finalement, c'était, j'ai presque envie de dire, un mal pour un bien.
Voilà.
Et c'est ça qui vous a permis, ce passage au digital, de vous exporter aussi, d'aller dans d'autres pays de l'Union européenne?
Alors non, c'est pas parce qu'on a eu la pandémie et la digitalisation du programme qu'on s'est exporté en France et en Italie. La raison pour laquelle on est allé en France et en Italie ouvrir ces stacks, c'est qu'on avait des femmes qui nous demandaient de l'aide dans ces pays-là. On n'avait pas encore vraiment de financeurs. Les financeurs étaient plutôt en Allemagne et à Londres et nous diraient « Ah, il faudrait que vous fassiez le programme là-bas », sauf qu'on n'avait pas de femmes réfugiées là-bas. Et on a fait une étude. On a fait une étude par rapport ce dont ont besoin les femmes réfugiées apparemment dans ces pays-là. Ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes réfugiées en Italie, en Grèce, étaient en grand besoin de quelque chose d'autre que de l'humanitaire. Aujourd'hui, on s'occupe, et c'est très important, des besoins basiques des femmes en Italie et en Grèce par des organisations humanitaires, mais il n'y a rien ou très peu qui est fait pour leur inclusion, réinsertion professionnelle. Et donc, on s'est dit, on apporte une brique dans ces pays-là qui n'existaient pas. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne et en Londres, où l'État fait beaucoup de choses, où la société civile se bouge, et donc on ne voulait pas rajouter une association en plus. Mmh. Donc, on a voulu vraiment rajouter une brique à tout ce qui est fait pour les personnes femmes, réfugiées, en Grèce et en Italie.
Ok, parlons un peu de toi, Inès, si tu le veux bien, de ton histoire, finalement. Comment tu en es venue à interagir avec Systèque? Comment tu as pu bénéficier, tu en es arrivée à bénéficier de ce que propose l'association?
Alors déjà, Systèque, c'était le hasard qui avait bien fait les choses, puisque je ne connaissais pas la structure et un jour, je recevais un message d'une autre structure qui disait, si vous souhaitez découvrir les métiers de la tech, puisque c'était vraiment dédié aux femmes, on parlait à l'époque Tech Fugees et tout, on a donné les coordonnées. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais quand même aller voir à quoi ça ressemble la tech. Et voilà, c'était plus pour une découverte. Et donc, j'ai postulé, j'ai passé mes entretiens et j'ai commencé. Il y avait trois branches, je pense qu'il y avait le développement web, il y avait le marketing digital et l'autre, la gestion de projet, je pense, en digital. Et moi, j'étais plus intéressée par le développement web. En fait, tout ce que je voyais, tout ce code et toutes ces couleurs, je me disais, c'est magique, mais est-ce que moi, je serais en mesure de faire ça? En même temps, je me suis dit, pourquoi pas s'il y a des gens qui sont humains comme moi, le font, pourquoi pas moi? Je me suis dit, je vais m'élancer et je vais découvrir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le développement web. Il y avait des formateurs qui nous accompagnaient. Il y avait Open Classrooms à l'époque. Il y avait des cours auxquels on pouvait accéder gratuitement. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert le dev et j'ai aimé, j'ai apprécié. J'ai eu à en faire mon projet professionnel. Et aujourd'hui même, j'ai dû faire une reconversion. J'ai fait une reconversion là-dessus et je travaille en tant que dev.
Ok. Et avant, tu faisais quoi, ton histoire un petit peu avant Systèque?
Alors moi, avant, j'avais un bac plus 5 en finance, banque et assurance.
Donc, ah oui, d'accord, ça pas du tout la même
du
chose.
Du tout, ça n'avait rien à voir. Et c'est en fait ça aussi qui me faisait me remettre en question, en me posant des sérieuses questions. Est-ce que je vais être en mesure? Est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que au fil du temps, je vais m'améliorer ou pas du tout? Et je me suis lancée, j'ai décidé de le faire. Je me suis lancée, j'ai aimé et j'avance, j'évolue.
Okay.
Et avant, ça n'avait rien à voir.
Et oui, j'entends ça. Oui, Joséphine?
Inès est pas la seule dans ce cas-là. Beaucoup des femmes dans le programme de Systèque sont dans une reconversion totale. Elles étaient avocates, elles étaient journalistes, comptables, avec des beaux diplômes, vraiment deux masters, cinq langues parlées. Et puis, aucune opportunité sur le marché du travail telle qu'elle. Ou des opportunités vraiment pas à la hauteur de leurs compétences. Et c'est ça qui est très difficile. Et elles ont fait le choix, et tu peux rajouter ce que tu veux, Inès, mais elles ont fait le choix de cette reconversion qui est d'accepter que le diplôme qu'on avait avant, il faut le mettre aux oubliettes. Et peut-être que tu veux évoquer ça, Inès. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. On nous pose souvent la question, est-ce que les femmes qui viennent dans vos programmes étaient ingénieures avant? Et c'est 10 à 15% du cas. La majorité, c'est vraiment que des reconversions.
Déjà, si je peux rajouter quelque chose, il y a une problématique dans ce sens-là parce que quand on arrive en France avec des diplômes étrangers, on n'a pas forcément de chance d'être reconnu avec le même niveau qu'on avait. Bon, moi quand même, je dirais qu'entre guillemets, j'ai eu un peu de chance parce que quand j'ai fait une comparabilité de mes diplômes, au lieu d'un bac plus 5, j'ai quand même obtenu un bac plus 4. Mais à part ça, il fallait refaire des formations pour se remettre à niveau. Bon, chose faite aussi. Mais voilà, c'est vraiment une difficulté. On peut être tellement, on peut rencontrer tellement d'obstacles pour franchir ce cap-là qu'à un moment donné, on s'est dit, j'en ai marre, j'en peux plus, j'abandonne. Et on se contente juste d'un travail manuel peut-être, d'un métier plutôt manuel qui nous permet juste de vivre alors qu'on a un bagage. Alors qu'on a un niveau, on a des diplômes, mais qui tombent à l'eau parce que les opportunités, on ne les trouve pas.
Oui, c'est dur, je suppose, de se dire toutes ces années d'études, je les mets, comme disait Joséphine, peut-être aux oubliettes. Est-ce que c'est dur de dire ça et de se dire je vais faire autre chose?
C'est dur, surtout quand c'est par contrainte, parce qu'on n'a pas de choix et qu'on doit le faire pour survivre ou pour vivre. Ça, c'est très dur. c'est très dur parce qu'il faut se dire qu'on a quand même consacré beaucoup d'années à faire des études. On avait une idée de l'avenir, de ce qu'on aurait voulu faire et tout, mais du jour au lendemain, tout abandonner, tout laisser tomber parce que c'est difficile, parce que c'est dur, parce qu'on n'a pas d'opportunité, je dirais pas de chance, mais pas d'opportunité, c'est dur. Et même dans mon cas, par exemple, faire une reconversion, c'est pas facile. C'est pas facile parce que déjà, moi, j'ai passé pratiquement, enfin, je dirais pas le tiers de ma vie puisque je sais pas dans combien d'années je mourrai. Voilà, mais jusqu'ici, j'ai passé le plus d'années chez moi au pays. Donc, le système d'éducation ou d'instruction, de formation n'est pas forcément le même qu'ici. Donc, c'est vraiment une remise à zéro, quoi, une remise à niveau. On repart de zéro, on refait le tout. Donc, niveau études, niveau formation, niveau diplôme, on refait le tout. On part vraiment de zéro. Mais vu que c'est quelque chose qu'on aime ou que j'aime, si je dois parler de moi, du coup là on sent moins la contrainte parce que c'est un choix qu'on a fait et on va faire une reconversion là-dessus. Mais quand c'est par contrainte, là c'est plus dur.
Oui, j'imagine. Est-ce que là tu aurais imaginé avant Systec, avant ce que l'association t'a apporté, pouvoir mettre un pied, ne serait-ce qu'un pied, dans le monde numérique de la tech, professionnellement parlant, parce que on parle souvent, Joséphine l'a évoqué, du fait que dans la tech et le numérique, il y a un manque de femmes. En tout cas, il y a beaucoup moins de femmes, encore plus quand il s'agit de femmes réfugiées. Malgré le fait qu'on soit en 2024, c'est encore le cas aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'études et de rapports le montrent. Est-ce que toi, tu aurais imaginé réussir, du coup, sans Systec, à aller dans ce domaine-là?
Alors pas du tout, déjà parce que ce domaine-là, c'est par Systec que je me suis lancée, que je l'ai découvert. Alors par moi-même, je sais pas, peut-être que j'aurais fait un rêve un jour qui me disait clairement ce que je devrais faire de ma vie, mais non, j'aurais jamais imaginé ça et j'y avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi la tech c'était réservé à un certain groupe de personnes, Je dirais des humains comme moi, mais je ne me voyais pas dedans, mais c'est en découvrant, c'est en mettant la main vraiment dedans que je peux comprendre que c'est tout le monde qui peut le faire et surtout les femmes, puisque je dirais que avant c'était plus un métier où on voyait les hommes, on retrouvait plus d'hommes que des femmes et même des femmes qui auraient eu cette volonté là. Moi j'en ai parlé, j'en parle toujours à mon entourage. Il y a d'ailleurs une personne que Joséphine connaît très bien, que j'ai eu à introduire dans l'association, à qui j'en avais parlé. Elle aussi, c'était une aide-soignante à l'époque. Et elle me disait, non, j'y arriverai jamais. Tout ce que je trouve, c'est très compliqué. Non, c'est pas fait pour moi. Mais j'ai eu réussi à la convaincre. Et elle a découvert le métier. Elle a adoré. Bon, malheureusement, aujourd'hui, suite à certaines contraintes de sa vie, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais voilà, elle était une aide-soignante et elle a carrément apprécié, adoré. D'ailleurs, elle s'est retrouvée dedans. C'est pour dire que c'est tout le monde en fait qui peut le faire et c'est plus comme avant, on pouvait retrouver que des hommes.
Et Joséphine, est-ce que c'est toujours le cas malgré tout dans les faits quand on regarde le monde de la tech et du numérique? Est-ce qu'il y a encore en 2024, malgré tout ce qu'on vient de dire, encore majoritairement des hommes et encore trop de barrières à l'entrée pour les femmes?
On le connaît, toutes les entreprises le partagent, elles disent vouloir des femmes, elles ne les trouvent pas, elles ne trouvent pas, comme elles disent, le vivier. Et on sait qu'il y a eu un recul chez les jeunes filles dans le choix des mathématiques et donc d'un parcours qui pourrait les amener vers les métiers qu'on appelle les STEM, hein, les sciences mathématiques et technologiques et informatiques. Donc, il y a un recul du nombre de ces femmes alors que tout est fait pour qu'elles viennent. Tout est fait, il y a plein d'initiatives depuis 10 ans et tout le monde s'interroge, qu'est-ce qu'on a mal fait pour ne pas donner l'envie. Mon constat, c'est que effectivement, il va falloir recréer un vivier, donc il va falloir opérer auprès des plus jeunes, ça c'est sûr. Mais en attendant, et c'est ce qu'on propose avec Systec, en attendant, il y a des femmes réfugiées ici qui sont prêtes à faire beaucoup de choses, comme on l'entend avec Inès, parce que tout ce qu'on leur propose, c'est moins bien que toutes les compétences qu'elles ont et qu'elles peuvent transférer. Je pourrais donner d'autres exemples qu'Inès, mais comme Inès est là, je préfère qu'on parle de son cas. On voudrait proposer ça et pas attendre que le vivier se crée. Et je pense qu'il y a une deuxième question qui se pose, c'est comment on garde les femmes dans le monde du numérique? Puisqu'on sait que c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes, il peut parfois se développer une culture, parfois qu'on dit toxique, mais qui est plus masculine, qui ne fait pas la place à des personnes qui sont différentes en genre, mais peut-être autre chose. Et donc, des valeurs qui ne font qu'on ne se sent pas bien et qu'on part. Et je pense que ça devient de plus en plus un sujet pour les entreprises. Comment je garde une femme dans mon équipe tech parce qu'elle ne supporte plus l'environnement qui peut être... J'aime pas trop le mot toxique, je trouve qu'il est un petit peu trop stéréotypé, mais qu'il peut pas donner envie de rester et de se dire j'ai envie de faire mon métier, je le fais bien et j'ai pas envie de me prendre des remarques parce que je suis une femme.
T'as ressenti ça, Inès, déjà, toi ?
Alors, aujourd'hui, non, parce que je suis dans... Enfin, je vais parler brièvement de mon équipe. Je suis dans une équipe déjà qui encourage les candidatures féminines. Donc, on est à 50-50 et c'est vraiment un équilibre. Et ça, c'est appréciable. On se sent à sa place et c'est plus les compétences qui comptent et non le genre, qu'on soit femme ou homme, peu importe. Voilà. Mais par le passé, j'ai été dans une équipe où au début, j'étais la seule femme. Et c'est vrai que c'était au milieu de d'hommes et tout, c'était, on ressentait quand même, hein. C'est vrai que comme ça, j'ai pas eu des commentaires désobligeants en tant que femme ou quoi que ce soit. Mais quand même, étant une femme seule au milieu des hommes, enfin, ça fait quand même, ça fait quelque chose. Moi, je suis féministe aussi, donc je me dis, oui, j'aurais aimé avoir d'autres collègues femmes et ensemble, voilà, apporter notre petite pierre à l'édifice. Et voilà, après, il y a eu quand même une autre femme, mais ça faisait pas forcément le poids. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que plusieurs entreprises encouragent les candidatures féminines. Et ça, je trouve que c'est un point plutôt positif et ça va aider à progresser dans ce sens-là.
Alors justement, oui, je te coupe, Joséphine, mais j'allais justement te demander par rapport aux entreprises, est-ce qu'elles ne trouvent pas le vivier, les femmes à embaucher, ou est-ce qu'elles ne veulent pas en embaucher ? Parce que ça a été aussi le problème pendant longtemps.
J'ai pas de données là-dessus, sur ce sujet-là. J'ai vu plein de rapports qui circulent et j'ai pas réussi à me faire une opinion hyper informée, alors que pourtant je baigne dedans. Mais il y a plein de choses qu'on met sur la table et je pourrais pas dire les entreprises en général, les grandes entreprises, les petites entreprises. Donc, je pense que c'est plus simple peut-être pour une grande entreprise de plus de 1000 employés d'accueillir des femmes, parce que on va avoir plus de gens pour faire le bon travail d'insertion, d'inclusion, et c'est des sujets. Tandis que dans une petite start-up de 10 personnes ou de 50 personnes, on va vouloir moins prendre le risque d'avoir des soucis d'intégration et de faire le souci d'inclusion. Parce que c'est pas encore une culture qui est très développée, je pense, dans les entreprises. Donc, deux poids, deux mesures, est-ce qu'on peut juger toutes les entreprises de la même manière ? Et puis, il y a des biais qui se font. Ce qui est sûr pour moi, et ça, ça a été démontré par beaucoup de sociologie, c'est que plus on aura de femmes dans les entreprises, plus on aura de témoignages d'une femme dans les entreprises qui disent « être une femme dans une équipe technique, ce n'est pas un problème » ou « voilà les problèmes que j'ai rencontrés, mais on les a réglés ensemble et voilà les outils pour les résoudre ensemble », on ira dans le bon sens. Il est effectivement malheureux qu'on ait eu à avoir des besoins de quotas dans le travail en général, pour que les femmes arrivent dans plus de positions sur des boards ou dans des positions manager et de directeur. C'est malheureux, mais ça a fonctionné. Donc, on voit bien que quand les choses font, qu'elles soient forcées ou naturelles, mais plus généralement forcées, les gens s'y habituent, puis ils ne voient plus de problème, et donc ça retire beaucoup de biais. Donc, moi qui suis pourtant pas la personne qui promeut beaucoup l'idée des rôles modèles, parce que je trouve qu'on en a beaucoup mis en avant dans les dernières années et on a toujours aussi peu de femmes dans la tech. Je pense que c'est un outil, les rôles modèles, mais il faut aussi de l'autre côté mettre de l'investissement sur la formation et il faut que les entreprises mettent des quotas, hein, très clairement, et puis peut-être des effets punitifs si les choses n'avancent pas. Je n'ai pas de formule magique et vraiment, j'insiste là-dessus. Même si je suis dans le milieu, j'essaye de m'informer de façon non biaisée parce que je ne pourrais qu'écouter les gens qui sont comme moi et qui sont militants pour qu'il y ait plus de femmes. Je suis féministe aussi, j'ai un angle sur cette question-là. Mais ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que beaucoup de choses sont faites et que je considère qu'on va dans le bon sens. Je vois de plus en plus de femmes, il y a de l'investissement qui est mis. On peut faire mieux. Et j'espère qu'on va y arriver. Mais il va falloir mettre beaucoup d'argent, moins sur la com, plus sur vraiment la formation et comprendre les biais de genre.
Il y a encore pas mal de travail finalement, même si on va dans le bon sens. Je voulais aussi aborder un sujet, tu m'y as fait penser juste avant, c'est le fait que dans la tech, ces derniers mois, nous, un siècle digital, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de licenciements dans tout un tas de domaines du numérique et de la tech. Mais dans d'autres, ça peut paraître paradoxal, mais dans d'autres, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que aujourd'hui, finalement, les entreprises peuvent, comment dire ça, se permettre de ne pas justement accentuer leurs efforts de recrutement sur les femmes réfugiées notamment?
On est dans un moment de licenciement dans le numérique, surtout dans les pays anglo-saxons, hein, pour dire oui. Ça n'a pas encore, c'est pas encore trop arrivé en France, mais je pense que ça va être la même tendance. Est-ce qu'elles peuvent se permettre d'avoir des politiques de diversité? Oui, je vois pas l'inverse en fait. On pense que faire de la diversité, c'est faire de la charité. Non. Nous, clairement, on pense que c'est une force et que ça renforce le produit, l'innovation, les équipes. Donc, c'est un investissement pour du profit que de faire de la diversité. Ce n'est pas de la charité. Et on insiste souvent quand on travaille avec les entreprises pour travailler avec leurs équipes recrutement, diversité, innovation, et pas que avec la fondation ou la partie RSE. Parce que clairement, si notre travail il a un impact, il est aussi un impact financier pour les entreprises. On est en face de gens, de personnes talentueuses qui ne sont pas vues sur le marché du travail et donc c'est vraiment gagnant-gagnant.
Tu sais leur parler aux entreprises, hein.
Je ne sais pas si je sais leur parler, mais c'est comme ça qu'il faut parler aux entreprises parce que les entreprises sont là pour faire du profit et c'est normal, c'est ça qu'elles affichent. Et ensuite, vraiment, les études le prouvent. Après, je ne vais pas avoir le discours de dire la diversité, c'est génial, il n'y a jamais de problème. La diversité, ça crée la tension. Et s'il n'y a pas de, on appelle ça la sécurité psychologique. Et puis, si on n'a pas des gens qui sont experts dans l'inclusion et la diversité au sein des équipes, très vite, ça peut tuer une équipe parce qu'on ne sait pas faire de la cohésion, on ne sait pas faire de l'inclusion. Il y a des gens qui vont se sentir blessés. Donc, il va y avoir des tensions. Mais c'est pour le mieux. C'est pour l'innovation, c'est pour voir les choses différemment et c'est pour apprendre. Moi, je prêche pour ma propre paroisse ici, mais c'est vrai que dans mon équipe, on est de nationalités très différentes et ça, c'est vraiment enrichissant. Inès est sur le board. On a d'autres personnes qui sont sur le board qui viennent de mondes complètement différents et donc, c'est bien d'avoir des apports de partout parce que quand je me retrouve dans un board meeting ou dans une réunion de travail avec mon équipe, j'ai des gens qui me montrent des choses que j'aurais jamais vues. Donc, on fait mieux les choses.
Tu as évoqué juste avant, au début de ta réponse, le fait que Inès, tu es encore au board de l'association, pour reprendre tes propos. Justement, quel est ton rôle aujourd'hui, Inès, au sein de Systech? Qu'est-ce que tu fais?
Alors aujourd'hui, au sein de Systech, je suis secrétaire, je suis bénévole et secrétaire de l'association.
Ok, et pourquoi avoir choisi de rester au sein de Systech, de t'impliquer de cette manière-là dans l'association?
Alors, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que Systech m'a tendu la main. Et c'est pas une obligation, hein, mais ça vient vraiment de moi. Systech m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Et pour moi, c'est aussi une marque de gratitude, voilà, de leur rendre l'ascenseur, rendre l'appareil. Et deuxièmement, c'est aussi pour aider les autres femmes qui sont peut-être dans la même situation dans laquelle moi j'étais avant. Et moi, j'ai eu cette chance de faire partie de Systech et d'autres peut-être n'en ont pas parlé. À mon niveau, je sais que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un petit apport qui peut aider une personne ou une autre autour de moi, une personne qui a des besoins, qui veut faire une reconversion ou qui est limitée, une personne d'origine étrangère, voilà. Et moi, c'est une façon aussi d'aider les autres femmes comme moi. Et à accéder à cette opportunité.
Oui, une manière d'apporter ta pierre à l'édifice.
Voilà, exactement.
Et alors, Inès dit qu'on lui a tendu la main, elle nous a renvoyé un ascenseur, ce qui démontre bien qu'Inès est très bien intégrée maintenant, parce qu'elle a la BNP et qu'il doit y avoir des grands immeubles avec des grands ascenseurs. j'aime beaucoup. Et l'autre chose que n'a pas dit Inès, parce qu'elle a beaucoup d'humilité, c'est que Inès, ayant beaucoup contribué à notre board, a été élue au Conseil des Sages récemment. C'est conseil des sages de Systech. Peu de gens peuvent dire encore qu'ils ont été élus.
C'est quoi ce conseil des sages?
Le Conseil des sages, c'est un grand nom, mais on a voulu, dans notre gouvernance, s'assurer que les gens dans le board vont venir et partir, et c'est normal, c'est un board, ça évolue, mais que les gens qui ont beaucoup contribué à ce board puissent avoir un regard sur des choses fondamentales qui seraient changées dans l'association pour garder l'esprit d'origine, et puis une certaine l'ADN de l'association reste. Et Inès fait partie de ces gens-là, et c'est très symbolique, mais ça permet de, par exemple, s'il fallait changer complètement la mission de Systech, à dire on n'aide plus que les hommes, on aide les femmes, Inès aurait son mot à dire.
Oui, ça me fait penser un peu le conseil constitutionnel de Systech, finalement.
C'est ça.
J'aimerais aussi qu'on aborde une chose dont on n'a pas encore parlé, ou très rapidement, qui est les services de l'association de Systech. Que propose exactement, dans les faits, Systech ?
Alors, aujourd'hui, et Inès, attention, tu dois tout savoir parce que tu es à jour, aujourd'hui, Systech propose surtout un accompagnement aux femmes. On a demandé à des partenaires éducatifs comme Coursera, comme Simplon, comme d'autres écoles en ligne et pas que en ligne, on leur a demandé d'assurer les formations. Nous, on assure l'accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi ? On donne à la personne une personne qui s'appelle Tandem Linguistique qui va lui aider à continuer à parler dans un français qui peut être culturellement approprié pour l'entreprise. Ensuite, on va avoir un mentor pour la prise de décision sur mon projet professionnel. Et il va y avoir un formateur. Ensuite, à côté de ça, on va proposer beaucoup de choses pour que la personne puisse se consacrer entièrement à son projet professionnel et sa formation. C'est-à-dire, on va payer pour les transports quand il faut aller à un entretien ou à une conférence ou à une rencontre avec d'autres fellows. La babysitter, s'il y a des enfants, comme ça on est tranquille pour faire les cours en ligne. On va avoir un ordinateur et une box Wi-Fi, si ça c'est un besoin, pas tous en ont besoin, mais parfois. Ensuite, on va avoir un soutien psychosocial pour les personnes qui ont des problèmes plus personnels et qui ont des moments difficiles. C'est notamment le cas pour celles qui vont avoir encore de la famille au pays, et il va se passer des choses au pays qui sont malheureuses, et donc ça aide toujours d'avoir un petit peu un soutien dans ces moments durs quand il se passe des choses au pays. Et enfin, on a toute la partie en plus supplémentaire des cours de langue quand on veut un renforcement et passer des tests et des examens pour prouver son niveau de français. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un accompagnement holistique de Systech. C'est là où passe la plupart de notre argent. Et c'est ça qui assure que ces femmes peuvent rester dans le programme. 84% des femmes qui viennent dans nos programmes à la fin le finissent, sont certifiées de ce programme-là. Et c'est rare pour des programmes qu'avec des femmes, donc 40% d'entre elles qui sont des mamans, de pouvoir finir un programme. D'habitude, les associations ont des chiffres beaucoup moins importants, mais ça, c'est parce que, comme le disait aussi Inès, parfois, elles ont des problèmes personnels un peu plus compliqués, et là, c'est difficile, elles doivent se retirer. Mais nous, on essaye d'assurer un maximum cette partie-là.
Et d'où vient l'argent qui vous permet de fonctionner, de dons, principalement ?
Les dons représentent 10% de nos financements. Ensuite, 70%, c'est les entreprises. Comme tu le dis, peut-être que je leur parle bien, les entreprises, c'est pour ça qu'elles financent. Mais on vit aussi de dons, et c'est important pour nous, les dons, parce que ça, ils arrivent souvent, on ne connaît pas les gens, ils nous disent « j'ai rencontré un tel qui m'a parlé de vous » ou « j'ai vu ce que vous avez fait » et c'est génial. On a des dons, ça fait avancer l'association, ça nous permet de les mettre sur les babysitters, les ordinateurs, les box Wi-Fi.
Et autre question aussi que je me posais, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a dit, mais sur l'origine de l'association, etc. Quand tu me dis que c'est génial que les gens vous fassent des dons, etc. Est-ce que au lancement de Systech, tu as été soutenu ou on t'a regardé avec des gros yeux ronds en te disant mais pourquoi faire, ça marchera jamais, ou alors t'as été justement très soutenu et on t'a dit fonce.
Est-ce que je dois dire la vérité?
C'est toujours mieux.
Non, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, moi, de constitution, on me dit non. Je dis, eh ben, t'as tort, je continue. Donc, il y a personne qui va me dire non et qui va me dire que mon projet est nul. Ça va pas m'arrêter du tout. Parfois, ça me motive, mais ça me fait souvent ni chaud ni froid.
D'accord.
J'ai trouvé des bons soutiens envers des entreprises, notamment Litchi Mangopé et sa fondatrice Céline Lazorte, qui a été la première, c'est une femme. Donc, il y a un truc qui ressort, c'est quand même, c'est beaucoup de femmes qui m'ont soutenue au départ et qui ont financé nos activités. Donc, j'ai eu la chance de ça. Mais il faut quand même le dire, c'est que avant d'avoir monté Systec. J'avais monté Tech Fugees, donc une organisation internationale pour soutenir des réfugiés et l'innovation. J'avais déjà un petit réseau de gens qui connaissaient ce que je voulais faire et qui, avec qui l'approche pouvait être plus simple. Et Tech Fugees n'avait pas été un petit truc à financer parce que j'avais beaucoup de mal à financer. Donc, j'avais dans les pattes déjà 2 ans à chercher du financement. Et avant ça, j'avais monté 2 autres choses. J'avais monté Girls in Tech à Londres pour les femmes dans la tech, pas réfugiées, peu importe le statut. Des femmes dans, à Londres, pour lesquelles j'avais aussi financé, mais là, c'était des financeurs UK. Et ensuite, j'avais monté aussi une entreprise avec un entrepreneur italien pour faire une IA dans la demande de visa. Voilà. Donc, j'ai un parcours derrière qui fait que j'avais un gros réseau de gens avec qui je pouvais demander. Et mon ratio entre le nombre de gens que je connaissais et les gens qui nous ont financés, il est très petit. Hein, ça, il faut le dire. Et c'est des femmes qui ont répondu. Mais c'est comme tout projet dans les débuts. C'est jamais évident, il faut qu'il y en ait un et puis le premier et le deuxième vont emmener les autres. Mais le premier est le plus difficile à trouver. Mais je dirais que grâce à mon passé de, comme on dit en anglais, de hustler, comme j'avais commencé en 2011-2012, j'avais donc dans les pattes 5 ans déjà à chercher de l'argent, à toquer aux portes, à monter des projets. Donc ça m'a beaucoup aidé pour me lancer plus vite qu'on aurait pu le faire si j'avais démarré de rien. Et je tiens à le dire pour inspirer d'autres personnes, parce que ça, c'est important pour moi en tant qu'entrepreneur. Pendant longtemps, je ne me suis pas financée sur ce que je faisais. Ce n'était pas grave pour moi, parce que je ne faisais pas ça pour l'argent. Je pense qu'on ne fait jamais ça pour l'argent. Mais ça a pris du temps. Et ça a pris beaucoup de gens qui disent non. Et encore aujourd'hui, j'ai des fondations en France qui sont très populaires, qui nous disent non. Mais je suis sûre que dans 2 ans, elles nous diront oui.
Une question de mentalité qui est important aussi, qui est important d'aborder. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai encore quelques questions quand même, notamment pour toi, Inès, toi qui as bénéficié de l'association qui est encore aujourd'hui. Quel est le conseil ou les conseils, tu as le droit d'en donner plusieurs, que tu donnerais à des femmes qui sont dans la situation où toi tu as été, qui osent pas peut-être, qui entendent parler peut-être de tech, de Systec, mais qui se disent « Ah, non, c'est pas pour moi ».
Premièrement, enfin, j'en ai plusieurs, plusieurs conseils. Je dirais, il faut se lancer. Il faut se lancer, ne pas trop réfléchir. De toute façon, on ne perd rien. À la connaissance, on ajoute, mais on ne rétranche rien. Donc, elles peuvent essayer. Si vraiment, en étant dedans, elles n'apprécient pas, au moins elles auront essayé. Mais n'est pas se dire non, je peux pas, c'est réservé à un groupe de personnes et moi, je peux pas, n'est pas se sous-estimer. On est tous capables ou toutes capables de faire quelque chose et on est tous dotés d'une intelligence. On a toutes les capacités, on a tout. À part notre mental, parfois le blocage vient de là, du cerveau et tout. On se dit non, je peux pas et ça nous handicape. Donc, je dirais qu'il faut se lancer, n'est pas trop réfléchir parfois. Et deuxièmement, c'est ne pas baisser les bras. On sait que ce parcours peut être difficile, mais tenir bon. Moi, je sais par quoi je suis passée, Joséphine le sait. Il faut juste tenir bon et ne pas se décourager. Peu importe les obstacles qu'on pourra rencontrer, ne pas baisser les bras et foncer jusqu'au bout. Il y a toujours une récompense.
Et puis finalement, ça permet de changer des vies. Je suppose qu'on peut dire que Systec a changé la tienne.
Ah oui, d'une certaine manière, oui, elle a beaucoup changé, elle a changé ma vie, elle m'a permis de prendre une autre direction que je n'aurais jamais imaginé prendre par le passé. Et j'ai rencontré des très belles personnes, des très bonnes personnes, des personnes compétentes. Et là, je pense particulièrement à mon mentor qui nous a quittés malheureusement. Et j'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui et qu'il voie où on en est, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, Systec a aidé puisque c'est pas forcément sur le plan professionnel. Moi, je le dis toujours, c'est pas forcément professionnel, mais il y a aussi le côté social. On rencontre des personnes qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre et qui peuvent nous être utiles d'une manière ou d'une autre. Et socialement parlant, c'est quelque chose de très important. Et professionnellement parlant aussi, ça c'est un très bel accompagnement. Et on peut élargir son réseau professionnel. Aujourd'hui, on peut ne plus faire partie de Systec, mais au moins, Systec aurait ouvert la voie à plein d'opportunités. On peut en faire ce que l'on veut.
Pour toi, Joséphine, On sent quand tu parles de Systech et des actions que des services que vous proposez que ça te fait toujours vibrer finalement après toutes ces années. Est-ce que tu te vois encore faire ça longtemps? Tu vas rester encore à ton poste longtemps?
Rester à un poste, non, ça j'ai jamais fait. On le voit bien, j'ai monté plusieurs boîtes, donc rester à un poste, non. Même dans une réunion, les gens me voient bouger, me lever. Je n'arrive pas à rester en place. Là, depuis tout à l'heure sur le podcast, j'aimerais bien bouger. J'essaie de rester et je retire mon micro dès que j'ai envie de bouger mes jambes. Non, je resterai pas. Par contre, je resterai pas parce que c'est pas ma personnalité. Je suis incapable de rester en place. Mais je vais évoluer. En fait, une structure comme la nôtre, on a démarré, on était deux, on en est ensuite cinq, on est maintenant 15. Mon boulot va évoluer, je vais faire d'autres choses. Je vais devenir dans le même, peut-être CEO toujours, mais avoir d'autres fonctions à apporter à l'équipe. Et ce que je nous souhaite, c'est que d'autant plus que je délègue et que quelqu'un prenne ma place, ce serait génial. Moi, ce que je veux et ce qui va être sûr, c'est que je serai fidèle à la cause. La cause, c'est une cause féministe. C'est une cause aussi très intersectionnelle sur plein de plans. Plan aussi des discussions sur les politiques d'immigration, les politiques d'asile. Et donc ça, elle est chevillée à mon corps, cette cause. Et notamment, et j'ai pas voulu répondre à ta question au départ parce que j'aime jamais ramener l'histoire à moi. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais moi, je viens du Nord. Calais, ça existe depuis des années. Ce n'est pas que depuis la crise syrienne. Dans les années 80, dans les années 2000, on avait des personnes afghanes et irakiennes. Dans les années 1990, on avait des personnes kosovares. Ça va continuer à l'être un endroit où des personnes sont fortes par la migration forcée, essayent d'aller en Angleterre. Et donc, c'est quelque chose de très personnel que de pouvoir arrêter cette souffrance et tous les obstacles kafkaïs qu'on met à des personnes pour juste vivre une vie qui soit digne et pas dans un pays en guerre. Donc, où que je sois, à mon avis, dans les prochaines années, je serai pas loin de Systech. Peut-être que je rejoindrai Inès sur le board, mais je serai pas loin. C'est si noté. Tu m'autorises, Inès.
Quelque chose me dit que ça lui poserait pas trop de problèmes, mais je ne parlerai pas au nom d'Inès. Bon, vous le savez, hein, aussi bien que moi, ce podcast, le but, c'est de mettre en avant Systech dans le cadre du podcaston. Qui dit mettre en avant une association, dit aussi appeler aux dons. Joséphine ou Inès, au choix, si on veut faire des dons ou rejoindre l'association, mais on va parler notamment là des dons, comment ça se passe? Où faut-il aller?
Sur le site.
Sur le site.
Il faut aller 6.tech et il y a un petit bouton donation et c'est par carte en ligne. Et ensuite, on vous refile une petite carte en vous disant merci et avec un petit reçu fiscal, je crois que ça s'appelle. Mais vous pouvez le faire et puis vous pouvez choisir, surtout c'est ce qui est important. Vous pouvez choisir là où vous voulez que l'argent aille. Est-ce que vous voulez que ça aille dans la
babysitter?
Est-ce que vous voulez que ça aille dans un ordinateur? Un très beau MacBook dernière version. Je rigole, mais ce sera sur le site. Et tu disais aussi d'autres dons. Inès en a parlé et j'ai aussi une pensée émue à son mentor, à Inès Stéphane, qui a fait partie de notre association pendant des années, qui a été le mentor d'Inès et qui nous a quittés. Et voilà, Stéphane, il a beaucoup, beaucoup apporté à l'association. Par quoi? Par son don d'heure et d'expertise. Et nous, on en a parlé, on a beaucoup de bénévoles. Si vous voulez devenir bénévole dans l'association, c'est aussi sur le site. Il y a un petit onglet « Vol, devenir bénévole » et vous pouvez vous inscrire.
Très bien. Eh bien, c'est noté pour nos auditeurs et nos auditrices également. Merci à toutes les deux pour votre temps et pour nous avoir raconté aussi vos histoires et vos aventures avec Systech, Joséphine et Inès.
Merci Grégoire.
Merci beaucoup.
Voilà, cet épisode un peu particulier touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté et j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous rendre sur www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres podcasts et des centaines d'autres associations. Si vous souhaitez aider Systech, n'hésitez pas. Vous l'avez entendu, vous pouvez par exemple faire un don, soit sur podcaston.org, soit directement sur le site de Systech. Il vous suffit pour ça de taper 6.tech dans votre barre de recherche. C'est simple et c'est une bonne action. Merci pour votre fidélité et à bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.